vendredi 15 décembre 2017 et vous écoutez Au quotidien des quotidiens, votre revue de presse. Et sans plus attendre, après avoir donné la date, on veut savoir, mais que s'est-il passé en ce jour béni du 15 décembre?
Bien des choses, mon cher François, bien des choses.
Mais encore.
Nous sommes la Journée internationale du thé, ça c'est la première chose à mentionner, c'est tout. La deuxième chose, c'est que le 15 décembre, si je remonte, attendez, je vais commencer par, par 1840. 1840, les cendres de Napoléon Bonaparte sont ramenées à l'église de Saint-Louis des Invalides à Paris. Nous avons Gone with the Wind, qui en 1939, le film produit par David Selznick, est projeté en première à Atlanta.
Autant n'importe le vent pour nos auditeurs qui l'auraient vu en français seulement.
Vous êtes bien aimable. 1947, pour son roman Marie Didas, Germaine Guèvremont reçoit le prix de l'Académie canadienne-française. Nous avons 1964, les communes adoptent l'unifolié comme drapeau canadien remplaçant celui l'Union Jack. Vous vous souvenez?
L'Union Jack qui est le drapeau britannique de marine et non pas celui qu'on imagine toujours comme étant le drapeau de la Grande-Bretagne.
C'est exact, je vous crois sur parole. En 1970, après 120 jours de voyage, la sonde russe Venera largue sur Vénus un module qui transmettra des signaux pendant 35 minutes. En 1988, la Cour suprême du Canada juge inconstitutionnelle des clauses de la loi 101 sur la langue d'affichage. 1994, l'UNESCO inscrit au patrimoine mondial la réserve, et j'aurais dû me pratiquer avant, Tachinchini Altsek, qui chevauche la Colombie-Britannique, l'Alaska et le Yukon. En 2000, à Québec, le député Jacques Dupuis révèle qu'au ministère du Revenu, une taupe avait transmis à des gangsters les adresses de 4 policiers. 2004, l'entreprise Superpage ou Superpage, associé à TELUS, renonce aux annuaires, donc les pages jaunes à Montréal, à Toronto, à Ottawa et à Québec. C'était en 2004. 2007, les participants de la conférence de l'ONU sur le climat à Bali conviennent de lancer des négociations afin de conclure un accord sur la lutte contre le réchauffement climatique qui prendra le relais du protocole de Kyoto de 1997. Et en 2012, finalement, le dernier tronçon de l'autoroute 30 qui contourne l'île de Montréal entre Vaudreuil, Dorion et Sorel-Tracy est finalement accessible à la circulation.
Après des années de débats sur son tracé, respectivement entre les gouvernements libéraux et péquistes, oui.
Et pour ce qui est des naissances, nous avons Gustave Eiffel, l'ingénieur français, qui est né en 1832, le 15 décembre. Et pour ce qui est des décès, nous avons 1966, le producteur de cinéma Walt Disney, qui était né, lui, en 1901. Le jazzman américain Glenn Miller nous quitte en 1944. Et le Hollandais Jan Vermeer, le peintre hollandais, nous quitte en 1675.
Et je tiens à rappeler qu'en ce qui concerne Walt Disney, aucune accusation de harcèlement sexuel à ce jour n'a été déposée contre le personnage. Ce qu'il faut quand même signaler, c'est dans l'air du temps. On passe immédiatement aux pages de la presse et plus particulièrement à ce qu'on pourrait appeler la balloune médiatique de la semaine. J'ai choisi pour vous en parler le texte d'Yves Boisvert, « La fausse histoire de la mosquée ». Une journaliste de TVA en direct affirme qu'au moins 5 femmes auraient été chassées d'un chantier voisin d'une mosquée dans le quartier Côte-des-Neiges. Elle présente un extrait d'entrevue avec le responsable d'une firme de signalisation qui affirme s'être fait dire que les femmes étaient bannies à la demande des responsables de la mosquée. Certaines ont été réaffectées, d'autres carrément privées de salaire. L'homme déclare que ce genre de démarche est inacceptable. Avec raison. Des badauds sont interrogés. Trouvez-vous normal de nos jours que des femmes soient bannies d'un chantier pour cause d'accommodement religieux? « Ah non, vraiment non », disent les badauds. Seul problème, ce n'est pas vrai. Suivons tout de même cette journaliste. Après cette première intervention, la reporter s'en va rencontrer les gens de la mosquée. Elle leur dit qu'elle sait qu'ils ont par écrit exigé que les femmes soient exclues du chantier de construction voisin de leur lieu de prière à leur demande le vendredi. Vraiment? Les responsables sont incrédules, ils sont prudents. Ils demandent de voir le contrat, ou du moins la demande écrite. Le chantier, après tout, n'a rien à voir avec leur mosquée. Mais si, ce contrat existe, qu'on nous le montre. La journaliste dit que le contrat est facile à obtenir puisqu'il s'agit d'un contrat public passé avec la Commission des services électriques qui a besoin de travailler sur le terrain de la mosquée pour ses réparations. « Non, non, donnez-moi une copie. Je veux voir ça avant de dire n'importe quoi. »« Parfait. Dès que je l'ai, je vous en envoie une copie. Moi, je l'ai filmée, je vais la montrer ce soir, » dit le journaliste. « Heureusement que cette demande était écrite, » dit le représentant de la mosquée. Dans une première version, la journaliste affirme que la demande stipule l'exclusion des femmes, noir sur blanc. Oups, pas vrai non plus. Elle n'a pas vu cette demande écrite, puisqu'elle n'existe pas. La mosquée a demandé qu'on ne fasse pas de bruit le vendredi après-midi, oui, mais il n'a jamais été question de bannir les femmes. La première version de ce reportage a été retirée et corrigée sur la question et la demande écrite, sur la question de la demande écrite, pardon. L'histoire demeure fausse. Il n'y a eu aucun accommodement religieux, aucune demande d'exclusion des femmes. Pas grave. Le feu était pris. C'était écrit noir sur blanc, disait le reportage. Tout le monde et son frère ont bien entendu dénoncer cette exclusion. Gabriel Nadeau-Dubois a immédiatement rappelé le principe non négociable de l'égalité homme-femme. J'ai écrit sur Twitter qu'un contrat excluant les femmes est en soi discriminatoire, contraire à l'ordre public, invalide. Et une fois toutes nos chemises déchirées, le groupe d'extrême droite identitaire La Meute a annoncé une manifestation devant la mosquée initialement prévue pour aujourd'hui, jour de prière. C'est évidemment une provocation, pour ne pas dire un appel à la haine sous couvert de défense de l'égalité des sexes. La Meute a annulé la manif d'aujourd'hui pour étudier la question plus en profondeur. Pourquoi? Parce que la Commission de la construction du Québec a fait enquête et cette histoire est du bidon. Après avoir rencontré tout le monde, la CCQ conclut ceci. Absolument rien n'indique que les dirigeants ou les représentants des mosquées aient demandé des aménagements concernant la présence de femmes sur le chantier. Des employés ont été déplacés parce qu'on est passé de 4 à 2, une autre parce qu'elle était mineure. Bref, ça n'a rien à voir avec la mosquée. On est toujours mal placé pour faire des leçons de journaliste aux collègues. Les erreurs, les confusions, ça arrive partout. Il y a un truc, par contre. Quand on se trompe sur un sujet aussi socialement explosif, quand on a ameuté tout le monde, on le dit clairement, on rétablit les faits, on présente des excuses. Toute cette affaire donne l'impression d'une histoire irrésistible qu'on a diffusée d'abord pour la vérifier à moitié après, et il a laissé se faire contredire officiellement 2 jours plus tard. Je rappelle qu'un type est allé tuer des gens dans une mosquée à Québec cette année. Il me semble qu'une prudence supplémentaire s'impose avant d'accuser injustement une communauté ciblée. Mais remarquez, pas obligé, juste vérifier minimalement aurait été apprécié. 2 choses pour finir. La liberté d'expression, la liberté de manifester ne sont pas des droits absolus. Vous manifestez devant un lieu de culte le jour de la prière sur de fausses prémices, n'est pas loin de l'incitation à la haine et pose certainement un risque de troubler la paix. Je ne connais pas de précédent d'une manif qui cible une communauté dans un lieu de culte. Dans ce contexte, notre très souriante mairesse Valérie Plante aurait dû envoyer un message clair, sans équivoque, très rapidement pour dénoncer cette manif odieuse. Au lieu de ça, elle a envoyé son responsable des communications qui n'a rien trouvé de plus fort à dire que l'hôtel de ville accueille favorablement l'appel au calme de Québec. C'est tout. « Montréal entend jouer un rôle accru en matière d'immigration et mène même une fronde à cet égard-là. C'est ce que nous apprend Pierre-André Normandin dans les pages de la presse. Montréal mène une charge des villes sur l'accueil des migrants. Montréal mène une charge auprès des Nations Unies au nom des 150 plus grandes métropoles du monde afin que les villes soient incluses dans les discussions sur l'immigration et l'accueil des réfugiés. Depuis l'automne 2016, les Nations Unies travaillent à développer deux pactes internationaux sur les migrations ainsi que sur les réfugiés. Lors d'une rencontre tenue la semaine dernière à Puerto Vallarta, au Mexique, la mairesse Valérie Plante a plaidé devant les représentants de plusieurs pays dans une vidéo de 6 minutes pour que les villes aient une place à la table des discussions. Les villes sont aux premières lignes du transit de l'accueil et de l'intégration des migrants, leur a-t-elle expliqué. Alors que le travail d'élaboration du pacte se poursuit, les villes veulent contribuer à la réflexion collective et faire partie de la solution. C'est ainsi que Métropolis a soumis un mémoire que je vous invite à considérer dans vos délibérations. Les villes y expriment leur engagement à agir localement pour mettre en place des politiques, des programmes et des services novateurs à la hauteur de la tâche qui nous incombe. Dans son message envoyé aux délégués des Nations Unies, la mairesse a notamment cité en exemple les efforts mis de l'avant par sa ville avec la mise en place du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal, le BINAM. La ville de Montréal a décidé de s'impliquer activement sur la scène internationale en constatant à quel point la majorité des migrants et réfugiés transitaient ou s'établissaient dans les grandes villes. La métropole québécoise a d'ailleurs reçu une importante partie des réfugiés syriens au cours des dernières années. On a un rôle à jouer. On veut donc aussi être à la table des discussions sur ces deux pactes, explique le directeur des relations internationales de Montréal, Henri-Paul Normandin. Aucun lien de parenté avec l'auteur des lignes. Ce dernier trace un parallèle avec les discussions internationales sur les changements climatiques. Il y a une dizaine d'années, les villes n'étaient pas aux tables et maintenant, elles le sont très sérieusement, dit M. Normandin. L'équipe des relations internationales de Montréal a ainsi rédigé un mémoire sur les migrations qui a été appuyé par les 136 membres de Métropolis, l'association regroupant les grandes métropoles. La déclaration préparée par Montréal a soudainement pris une plus grande importance la semaine dernière à la suite de la décision des États-Unis de se retirer des discussions. Mécontente de voir leur gouvernement tourner le dos aux négociations pour les deux pactes, une quinzaine de villes américaines ont décidé de se rallier au travail entrepris par la métropole québécoise et signifier leur appui à sa déclaration. Parmi les signataires américains de la Déclaration de Montréal, on retrouve ainsi Bill de Blasio, maire de New York, Rahm Emanuel, maire de Chicago et ex-chef de cabinet de Barack Obama, ainsi que Muriel Bowser, mairesse de Washington. Paul Journet, dans un texte qu'on n'aura malheureusement pas tout le temps de lire, nous parle du doigté de la commission Chamberlain, c'est d'ailleurs le titre de son éditorial. Après des mois d'audience et de réflexion, la commission Chamberlain accouche de deux recommandations phares prêtes à être adoptées par Québec. Renforcer la protection des sources journalistiques et renforcer l'indépendance de la police face aux élus. Plusieurs personnes peuvent remercier aujourd'hui la Commission pour son travail. Les journalistes, à qui on offrirait une protection exemplaire de leur travail. Les politiciens, à qui on offrirait une protection contre eux-mêmes. Et enfin, le gouvernement Couillard, qui reçoit des solutions raisonnables susceptibles de faire consensus. On pourra chipoter sur les détails. Il est vrai que le juge Chamberlain ne recommande pas de changer la loi sur les dénonciateurs et qu'il n'écorche pas trop la culture du secret des corps policiers ou la négligence, des juges de paix. Mais cela ne relevait pas strictement de son mandat. Et surtout, en évitant de distribuer les blâmes, la commission réussit à ne pas s'aliéner les policiers ou les magistrats. Elle augmente ainsi ses chances de rallier des cultures opposées. Ce travail prenait du doigté. Un trio improbable pilotait cette commission. Le président Jacques Chamberlain, juge à la Cour d'appel, assisté par les commissaires Guylaine Bachand, avocate en droit des médias, et Alexandre Matt, ex-chef de police de la Ville de Québec. Chacun amenait une sensibilité particulière, mais au bout du compte, ils ont accouché de recommandations unanimes. Elle cible les institutions et non les individus. Elle s'intéresse au passé pour mieux améliorer l'avenir. La première ferait du Québec un modèle en matière de protection des journalistes. En octobre dernier, grâce au leadership de sénateurs comme le conservateur Claude Carignan, le Canada a adopté une loi pour protéger les sources journalistiques. Elle renverse le fardeau de preuve. C'est désormais la couronne qui doit prouver que la divulgation des sources d'un journaliste est justifiée. Or, cette loi ne s'applique qu'au droit criminel et elle ne porte que sur les sources. Le rapport Chamberlain propose à Québec d'adapter une telle loi pour le droit civil et de l'élargir au matériel journalistique.
Bonjour, mur. Bonjour, chaise. Bonjour, saison de malaise qui s'achève. Bonjour, fête. Bonjour, bruit. Et bonjour, meilleurs amis, je vous aime. J'arrive à pleine lenteur. Il fait noir. Travaille au noir, quand le froid nous vandalise, tu dis que l'on malade pour le restant de nos vies. Bonjour, reine. Thank you.
C'était avec podcast et il fait nuit de bonheur.
Merci Mathieu, Mathieu Tessier qui assure la mise en onde de cette émission et les choix musicaux. Un phare de constance en cette période où Hélène Denis nous fait défaut, je la remplace, c'est évident, mais voilà, alors donc Mathieu lui est toujours là, merci Mathieu. Alors on passe aux pages du devoir sans plus attendre, plus particulièrement à un article de Philippe Papineau sur le prêt dont auront bénéficié les médias régionaux, ceux-là même qu'on couvre en fin d'émission. Un texte intitulé « Quotidiens régionaux, un prêt politique qui divise ». C'est le Conseil des ministres du Québec qui a demandé au Fonds de développement économique géré par Investissement Québec de prêter 10 millions de dollars à Groupe Capital Média et ses 6 quotidiens régionaux. Et le gouvernement compte utiliser la même approche qui a soulevé certaines inquiétudes pour aider d'autres médias en difficulté. C'est une décision du Conseil des ministres, car ce type d'entreprise-là n'est normalement pas admissible. Et pour nous, l'idée, c'était de faire un décret spécifique pour les médias écrits, a affirmé au devoir la vice-première ministre et ministre de l'Économie, Dominique Andelade, peu après une conférence de presse tenue dans les bureaux du journal saguenéen Le Quotidien. Groupe Capital Média, propriété de l'ancien ministre libéral Martin Cochon et présidé par Claude Gagnon, compte en son sein les quotidiens régionaux Le Soleil à Québec, Le Droit à Ottawa-Gatineau, Le Quotidien à Saguenay, Le Nouvelliste à Trois-Rivières, La Tribune à Sherbrooke et La Voix de l'Est à Green Bay. Investissement Québec procédera donc à un prêt de 10 millions remboursable auquel s'appliquera un taux d'intérêt qui n'a pas été dévoilé. Le montant se greffera au plan de Groupe Capital Média pour sa transformation numérique. L'entreprise insufflera pour sa part 16 millions et en fonds autogérés par l'entreprise, a précisé Claude Gagnon. C'est une belle ouverture de Québec, ajoute ce dernier. C'est la première fois qu'un gouvernement ici au Canada ouvre la porte en disant « on va donner de l'aide aux médias ». C'est vraiment important. Quelles sont les chances pour Québec de récupérer son investissement? C'est sûr que l'on souhaite revoir cet argent-là et qu'on a regardé le plan d'affaires objectivement par rapport à ça, a expliqué au devoir Mme Andelade. Pour nous, le risque, c'est aussi 400 emplois et c'est l'information régionale. C'est l'intérêt supérieur qu'on doit regarder plutôt que simplement se demander « est-ce qu'on va récupérer nos billes ?» Ce prêt fait par Québec soulève toutefois des inquiétudes quant à la liberté des journaux ainsi aidés par l'État. La Fédération nationale des communications, la de FNC-CSN, parle d'une aide imparfaite et assure que les syndicats de Groupe Capital Média qui représentent les journalistes veilleront à l'indépendance des rédactions. Du côté de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la FPJQ, le président Stéphane Giroux juge qu'une aide qui viendrait d'un conseil des ministres qui y va à coups de promesses électorales qui sont offertes à des fins partisanes ajouterait une pression sur les dirigeants de presse. Mais on espère que les éditeurs vont savoir trancher, que M. Cochon va savoir dire « oui, on accepte l'argent, mais ne venez pas dire à nos journalistes quoi écrire ». Dominique Andelade dit faire confiance aux journalistes des différentes régions pour leur professionnalisme et leur capacité de discernement. Le professeur titulaire en droit à l'Université de Montréal et chroniqueur au devoir Pierre Trudel rappelle que plusieurs pays d'Europe, comme la France, aident leurs médias avec, par exemple, des privilèges fiscaux ou l'accès aux services postaux. L'atelier, selon lui, réside dans le fait que ces programmes soient administrés à distance du gouvernement et à des conditions prédéfinies. Le prêt du Québec à Groupe Capital Média ouvre la porte pour les autres qui font leurs demandes, dit Claude Gagnon. La ministre Andelade l'a confirmé, affirmant que si une organisation vient nous présenter des projets similaires, on va les regarder avec la même équité que celle avec laquelle on a regardé les projets qui ont reçu de l'aide du gouvernement. Pourrait-il y avoir d'autres annonces? Effectivement, confie la ministre. L'animateur Bernard Drainville affirmait d'ailleurs jeudi matin sur les ondes du 98.5 FM que Le Devoir obtiendrait aussi une aide financière. Est-ce qu'on a eu une demande du Devoir? La réponse, c'est oui, a dit la ministre Andelade. L'information sera rendue publique et détaillée en temps et lieu. Le directeur du Devoir, Brian Mills, n'a pas jugé, elle n'a pas commenté l'information. Question éthique qui rebondit devant le refus de beaucoup de médecins de donner l'aide médicale à mourir. Faut-il élargir la pratique de l'aide à mourir à d'autres professionnels? C'est le titre du texte d'Isabelle Paré dans les pages du Devoir. Faut-il élargir la pratique de l'aide à mourir à d'autres professionnels de la santé compte tenu du nombre important de médecins invoquant l'objection de conscience pour décliner les demandes de leurs patients? Pourquoi ne pas créer un emploi spécifique pour administrer l'aide à mourir? Plaide un patient condamné contacté jeudi par le Devoir. Même si sa santé décline à la vitesse grand V et qu'il estime ne plus détenir que 10% de ses capacités physiques, Michel Favreau, prisonnier de son propre corps, s'est vu refuser l'aide à mourir. Il se voit forcé de péricliter à petit feu et la médecine n'a que l'acharnement thérapeutique à lui offrir, déplore-t-il, dans une lettre dont des extraits sont publiés dans le Devoir. Souffrant d'une maladie orpheline dégénérative et incurable qui me rend de plus en plus prisonnier de mon enveloppe charnelle, je ne suis malheureusement pas admissible à l'aide médicale à mourir. Mes muscles s'évaporent sans cesse, je deviens lentement mais sûrement une momie, tout en restant totalement conscient, confie ce patient dans une lettre poignante. Malgré la maladie qui l'accable, sa trachéotomie et sa dépendance totale à de multiples intervenants pour se laver, manger, changer de couche, se tourner dans le lit, Michel Favreau a trouvé l'énergie de faire parvenir cette lettre au Devoir dans l'espoir que sa voix soit entendue. Au lendemain d'un article rapportant que 77% des médecins ayant reçu une demande d'aide à mourir dans la région de Laval ont invoqué l'objection de conscience, ce dernier propose que d'autres professionnels de la santé puissent administrer l'aide à mourir réclamée par les malades. Donner l'aide médicale à mourir, c'est grave et sérieux, et je comprends toutes les réticences des médecins. Pourquoi faut-il que ce soit eux qui écopent de la patate chaude? Demande-t-il. On se retrouve dans quelques instants avec le Journal de Montréal. Restez avec nous.
Lost my name in a Tokyo kiss. I lost my name. I lost my name in a Tokyo kiss. We'll be right back. remember my name. Please, please, please kiss me again. When I forget my name again, oh, kiss me one time, oh, kiss me two times, to kiss me three times.
Mike a quitté.
I lost my name in a Tokyo kiss. I lost my name.
Arthur H et sa chanson, c'était Tokyo Kiss.
Merci Mathieu. Journal de Montréal, où on apprend qu'un vieux dossier qu'on pensait réglé depuis les années du gouvernement Charest rebondit alors que les agriculteurs se mobilisent pour contrer l'exploitation gazière et pétrolière sur leur sol. Agriculteurs debout face aux gazières, un texte d'Anne-Caroline Desplanques. Inquiets de perdre leur gagne-pain aux mains d'industries pétrolières et gazières, les agriculteurs réclament en bloc l'annulation de tous les permis d'exploitation d'hydrocarbures sur leurs terres partout au Québec. La résolution a été adoptée à l'unanimité au Congrès annuel de l'Union des producteurs agricoles, l'UPA. Comme un seul homme, plus de 300 délégués se sont levés pour demander au gouvernement de retirer les droits souterrains, les « claims », accordé aux compagnies pétrolières que prévoit la loi sur les hydrocarbures. Si cette loi entre en vigueur sans que le gouvernement ait retiré les permis sur nos terres, nous ne serons plus maîtres chez nous, c'est très grave, gronde Denis Paquet, producteur laitier. Québec a déposé en septembre 4 projets de règlement associés à la loi sur les hydrocarbures qui ont été soumis à une consultation publique. Leur adoption donnera le feu vert à l'entrée en vigueur de la loi. Les gens ne sont pas au courant que leurs terrains sont « claimés », mais tout ce qui suit le Saint-Laurent jusqu'à Rivière-du-Loup, c'est « claimé », prévient Isabelle Bouffard de l'UPA. Les compagnies détiennent ainsi les droits immobiliers sur le sous-sol de 53 000 km² du territoire québécois, calcule le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Grâce à ces permis acquis pour 10 sous l'hectare, les entreprises peuvent explorer le sous-sol sans demander la permission à personne. Et si elles mettent la main sur un gisement, elles pourront exproprier le propriétaire s'il refuse de leur céder son terrain. Les agriculteurs seront les premiers visés, selon Mme Bouffard. Les claims sont majoritairement en zone agricole. Si l'exploitation doit se faire, c'est chez nous que ça va se passer, pas en ville. Chez M. Paquette, à Sainte-Croix, dans l'Aude-Binière, c'est la compagnie albertaine Kester, partenaire de la multinationale espagnole Repsol, qui lorgne le sous-sol. Elle y prévoit un projet pilote d'exploitation de gaz de schiste, ce qui impliquerait l'injection de sable, d'eau et de produits chimiques à haute pression dans le roc pour en extraire la ressource. Il y a des risques de contamination de notre eau potable dans le futur pour nous et nos élevages, crée M. Paquette. En 2014, le Bureau d'audience publique sur l'environnement a indiqué que les produits chimiques injectés dans le roc pour le fracturer peuvent se disperser jusqu'à 600 mètres dans le sol, contaminant l'eau souterraine sur leur passage. Or, Québec prévoit permettre aux compagnies de faire de la fracturation hydraulique à 400 mètres des aquifères. Rien pour rassurer Solange Lemay, une productrice de sirop d'érable de Lotbinière qui vient de céder sa ferme laitière à son fils. Nous, on fait de l'agriculture et on en vit bien depuis 4 générations. On n'a pas besoin de ça, les hydrocarbures, dit-elle. L'Institut économique de Montréal estime que les agriculteurs ratent une occasion en or en s'opposant au forage sur leurs terres, car les compagnies sont prêtes à leur payer des rentes. Mais la décision de Mme Lemay est sans appel. On ne va pas céder pour une rente à court terme et scraper nos terres pour les générations à venir, tranche-t-elle. Ah, si vous êtes sorti ce matin, c'était difficile de ne pas le remarquer. L'hiver est bien présent et le Journal de Montréal nous rappelle qu'en ce 15 décembre, ceux qui roulent sur des pneus d'été sont maintenant dans l'illégalité. C'est le titre du texte. Les retardataires qui n'ont toujours pas effectué leur changement de pneus sont depuis minuit vendredi dans l'illégalité et sont passibles d'une contravention. En fait, le 14 décembre était la date butoir pour chausser son véhicule de pneus d'hiver, assurant une meilleure adhérence aux routes glacées, enneigées et gelées. Après quoi, les automobilistes qui n'auront pas procédé à leur changement de pneus circuleront sur les routes du Québec en toute illégalité et seront assujettis à recevoir une contravention allant de 2 à 300 $. Rappelons que le gouvernement a modifié la loi en vue de l'an prochain alors que la date limite sera devancée au 1er décembre. Les plus téméraires pourront de nouveau enfiler leurs pneus d'été dès le 16 mars, date à partir de laquelle les automobilistes pourront rouler en toute légalité. C'est au Québec qu'aura lieu le prochain sommet du G7 et on connaît maintenant les priorités que le gouvernement Trudeau entend mettre à l'agenda. Égalité des sexes et climat au G7, c'est le titre de Jean-François Racine. À moins de 6 mois de l'événement, le premier ministre Trudeau a annoncé jeudi les 5 thèmes qui guideront la présidence canadienne du G7 en 2018 à Charlevoix. Même si le sommet aura lieu au Québec, l'annonce d'une 20aine de minutes en direct sur Internet s'est déroulée principalement en anglais, à l'exception de quelques passages en français. En cette année du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, M. Trudeau portait fièrement des bas ornés du chiffre symbolique pour le pays. Au cours de la prochaine année, le Canada souhaite faire progresser des priorités nationales et internationales découlant de 5 thèmes. Investir dans la croissance économique qui profite à tout le monde, se préparer aux emplois de l'avenir, promouvoir l'égalité des sexes et l'autodétermination des femmes, travailler à l'égard des changements climatiques, des océans et de l'énergie propre, et construire un monde plus pacifique et plus sûr. La région de Charlevoix représente bien la vision que partagent les dirigeants du monde. La vision que partagent les dirigeants. Un monde propre, sûr, pacifique, divers, inclusif et prospère. C'est donc l'endroit parfait pour avoir les discussions de fond qui mèneront à des solutions concrètes pour les gens qu'on représente, a notamment mentionné le premier ministre Trudeau. Dans les mois précédant le sommet des dirigeants, le Canada tiendra une série de réunions de ministres du G7 qui aborderont ces thèmes. Le premier ministre a également dévoilé le logo du G7 pour 2018 qui rend hommage au paysage de Charlevoix. Selon l'organisation, ce logo évoque le relief montagneux et la forêt mixte qui borde le fleuve Saint-Laurent à cet endroit. Alors, au nouveau CHUM, on a, semble-t-il, pensé à tout, mais pas nécessairement à tout le monde, ce que nous signale Mathieu Payen dans le Journal de Montréal. Difficulté pour les handicapés au nouveau CHUM. Portes difficiles à ouvrir, toilettes mal adaptées, bornes d'enregistrement trop hautes, une véritable course d'obstacles attendait une femme tétraplégique lors d'un rendez-vous médical dans le nouveau CHUM. Claire Savage se souviendra longtemps de sa première visite dans l'hôpital Flambant Neuf construit au coût de 3,1 milliards. Rien que d'y penser, je suis en colère. Ça m'a traumatisée, dit la femme, pourtant habituée aux difficultés de la vie en fauteuil, puisqu'elle vit avec depuis 30 ans. Le 20 novembre dernier, Mme Savage devait passer une radiographie de la vessie en prévision d'une possible opération. Prudente, elle avait appelé l'hôpital auparavant pour s'assurer que tout était accessible à son fauteuil roulant. Elle est même arrivée avec 45 minutes d'avance le jour de son rendez-vous. « C'est très important que je sois capable de faire les choses par moi-même, alors je m'organise », dit-elle. Malgré ses précautions, son parcours à l'hôpital s'est transformé en course d'obstacles, comme on peut le constater dans un reportage photographique que, évidemment, on ne présentera pas ici. C'est le genre de problème que ne remarque pas une personne valide, mais un hôpital tout neuf devrait être un exemple en matière d'accessibilité, affirme Walter Zelaya, le directeur général de l'organisme Moelle épinière et mobilité Québec, qui a convaincu Mme Savage d'adresser une plainte au CHUM. M. Zelaya affirme être intervenu auprès du gouvernement il y a 4 ans pour s'assurer que l'accessibilité serait bien prise en compte dans le nouvel hôpital.
Et si je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Et si je n'ai pas d'amant, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Si je suis seule dans la vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie? Si je perds tous mes amis, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Lâche juste pas, fais-toi un pas. Ça va, ça va. Si je fais rien de ma vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie? Si je meurs et qu'on m'oublie, alors c'est quoi, alors c'est quoi? En m'accouchant, comme les enfants de mes enfants qui sont morts-nés en m'accouchant. Quand je suis seule, je suis pas seule, je fais comme s'il était avec moi. Je prends l'oreiller dans mes bras, t'es encore là, t'es encore là. Lâche juste pas, fais-toi un pas. Ça va, ça va.
Lou Adrian Cassidy qui nous chantait « Ça va, ça va ».
Merci Mathieu. On passe au volet peut-être un peu plus récréatif de cette émission avec des sujets un peu légers ou alors des sujets qui nous mettent de bonne humeur. Et je commence tout de suite, non pas en vous lisant un texte, mais en vous disant qu'un effort additionnel de Tomáš Plekanec a permis aux Canadiens de Montréal de vaincre les Devils du New Jersey par la marque de 2-1. Alors on ne va pas bouder notre plaisir pendant que ça passe. Dans la presse, les vétérinaires ont fait une sortie que nous rapporte Gabriel Bellan. Une sortie assez étonnante, vous allez le voir. « Rangez vos brownies aux potes, préviennent les vétérinaires », c'est le titre. Les vétérinaires du Québec voient chaque année leur lot de chiens aux pupilles dilatées, oui, avec le cœur qui bat trop vite et l'air euphorique, victime d'une intoxication au cannabis. Avec la légalisation en juillet, ils s'attendent à en voir davantage et demandent à la population d'être vigilante. Les chiens peuvent être très gourmands. Si un chien tombe dans une portion de muffin ou de brownies qui contient du cannabis, il peut en manger de très grandes quantités et subir une intoxication, prévient la docteure Caroline Kitzdonk, présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, en entrevue à la presse. Ce type d'intoxication menace tous les animaux de compagnie, mais les chiens sont particulièrement à risque. Le phénomène peut faire sourire, mais les vétérinaires sont formels. Un animal intoxiqué au cannabis n'a rien de drôle et les conséquences peuvent être sérieuses. Le vétérinaire Francis Lagacé de la clinique Jean Talon à Montréal estime voir des cas d'intoxication au cannabis une ou deux fois par année. Le mois passé, une cliente est venue le voir avec un petit chien d'environ 9 livres. Le chien était en hypothermie. Il était ataxique, c'est-à-dire qu'il marchait tout croche. Ses pupilles étaient très dilatées, relate le docteur Lagacé. Sa pression était très basse. Il semblait en très mauvais état, à tel point qu'on se demandait vraiment comment il en était rendu là. Le vétérinaire a dû réchauffer le chien à l'aide de couvertures thermiques, lui injecter un cathéter intraveineux. Il lui a même fait passer une radiographie car à ce moment-là, il ignorait que le chien avait mangé du cannabis. Ce n'est que plus tard que la cliente a évoqué cette hypothèse. Il faut aussi que les gens n'aient pas honte de le dire à leur vétérinaire si leur animal a consommé du pot. Ça nous aide beaucoup, souligne Francis Lagacé. Le chien a finalement dû rester 24 heures en clinique avant que ses symptômes se résorbent, mais les conséquences peuvent être plus lourdes. Il y a eu peu de décès, mais il y en a eu, note Caroline Kitzdonk. Les décès, c'est souvent quand c'est mélangé avec des produits gras. L'Ordre n'a pas de chiffres précis sur les intoxications au cannabis, mais constate que les cas sont à la hausse. Les vétérinaires croient que ces intoxications voient ces intoxications de plus en plus souvent, note la présidente, mais c'est difficile de toujours avoir un diagnostic clair. Ah, l'Inde a créé des postes de ministre du bonheur, voyez-vous. Il y en a un ces temps-ci qui fait beaucoup jaser, ce que nous rapporte l'agence France Presse à New Delhi. Inde, le ministre du bonheur recherché dans une affaire de meurtre. La police indienne a annoncé mercredi avoir lancé une chasse à l'homme contre le ministre du bonheur d'un État indien, cet homme politique ayant disparu après qu'un tribunal a demandé son arrestation pour son rôle présumé dans un meurtre. Lal Singharia, dont la seule et unique tâche est de rendre heureux les 70 millions d'âmes de l'État du Madhya Pradesh, est recherché dans une affaire d'assassinat d'un opposant politique en 2009. Le Madhya Pradesh est devenu en janvier le premier État à se doter d'un ministère du bonheur. Nommé à ce poste, M. Arya était chargé du bonheur et de la tolérance entre les citoyens du Madhya Pradesh. En Grande-Bretagne, l'agence France Presse nous rapporte, c'est d'ailleurs le titre, un chirurgien britannique reconnaît avoir gravé ses initiales sur le foie de ses patients. Un chirurgien britannique poursuivi en justice à Birmingham a reconnu mercredi avoir gravé ses initiales au laser sur le foie de deux patients qu'il opérait pour une transplantation en 2013. Simon Bramhall, 53 ans, a plaidé coupable de deux chefs d'inculpation de coups et blessures pour avoir inscrit ses initiales SB sur le foie de deux patients sous anesthésie sans leur consentement lors d'interventions à l'hôpital Queen Elizabeth de Birmingham en 2013. Pour ce faire, il s'est servi d'un laser au gaz argon, instrument utilisé en chirurgie notamment pour éviter les hémorragies. Les initiales avaient été découvertes lors d'une opération de suivi d'une des victimes, selon les médias britanniques. Le médecin a obtenu d'être maintenu en liberté sans caution jusqu'au verdict de la Cour sur sa culpabilité prévu le 12 janvier. « C'est une affaire hors du commun et complexe », a souligné durant l'audience le procureur Tony Badenoch, estimant qu'il s'agissait d'une affaire sans précédent légal dans le droit pénal. Le plaidoyer de culpabilité témoigne que ce qu'il a fait n'était pas seulement contraire à l'éthique, mais aussi répréhensible sur le plan pénal, a-t-il ajouté. Ces actes, décrits par l'accusation comme un abus de pouvoir, étaient délibérés et conscients, a exposé M. Badenoch. Le fait pour le Dr Bramhall de graver ses initiales sur le foie d'un patient n'était pas un acte isolé, mais un acte répété à deux occasions nécessitant compétence et concentration. Cela a été fait en présence de collègues. L'histoire terrible du jour qui aurait pu très très mal se terminer, un titre de Philippe Melbourne Dufour dans le Journal de Montréal. Je vous donne le titre tel qu'il est. Il faisait caca sur un pont et se retrouve dans la rivière poussé par un train. Patterson, New Jersey. Un homme qui faisait caca sur un pont ferroviaire s'est retrouvé dans la rivière Passaic après avoir été poussé par un train. Un employé qui se trouvait à bord de la locomotive affirme avoir aperçu un homme accroupi, les pantalons aux chevilles, sur le pont que le train s'apprêtait à traverser. Des efforts ont été déployés pour ralentir le train qui a finalement heurté la victime à très basse vitesse. Selon NordJersey.com, l'homme a été repêché des eaux glaciales avant d'être transporté à l'hôpital. Toutefois, un pompier aurait subi des blessures à la jambe lors des opérations de secours. J'imagine l'angoisse du pauvre homme. Allez, puisqu'on est dans les nouvelles terribles, un texte de Michael Labranche, elle arrache le testicule de son ex avec ses dents. Un homme à Édimbourg, en Écosse, a appris douloureusement les conséquences de dire non à son ex-femme. Nunzia Del Vicio, 43 ans, a littéralement arraché le testicule de son ex-conjoint après que celui-ci ait refusé un plan à trois, selon ce que rapporte STV News. Del Vicio a affirmé devant la cour qu'elle avait commis ce geste par légitime défense. Elle a finalement été reconnue coupable de voies de fait. Elle a été dans l'obligation de donner 500 livres sterling à Marcello Palma, 44 ans. Elle ne peut pas sortir de chez elle entre 22h et 6h pour les 6 prochains mois. Le 22 mai dernier, le soir des événements, Palma, Del Vicio et deux autres personnes sont sortis dans un bar. Une fois la soirée terminée, ils sont tous revenus chez Palma en taxi. Del Vicio, qui avait pris de la cocaïne et d'autres drogues, est entré dans la chambre de Palma, nu, et lui a demandé de faire un plan à trois. Il a refusé la demande de la dame et elle s'est mise à détruire sa chambre. « J'ai pris ses vêtements, je les lui ai lancés. On s'insultait et elle m'a mordu le testicule droit. » Je lui ai donné 3 coups de poing et je lui ai mis mes doigts dans les yeux pour la repousser. Mon testicule est sorti quand elle a fait un mouvement de la tête vers l'arrière, affirme Palma. Il est allé à l'hôpital et les médecins ont pu remettre son testicule à sa place. Cela a nécessité 15 points de suture. Allez, on va à Granby rapidement pour dire que, et c'est une bonne nouvelle pour la jeunesse de la ville, les grands gagnants du budget de la ville de Granby sont maintenant les jeunes, ce que rapporte Marie-France Létourneau. La jeunesse profitera en bonne partie de la hausse globale des subventions versées par la ville de Granby aux organismes en 2018. Une somme supplémentaire de 810 000 $, soit une augmentation de près de 10 % a été prévue au budget récemment adopté par les élus. Il faut continuer à investir dans la ville. Elle progresse excessivement bien. Et je pense que quand on investit dans la jeunesse, c'est toujours à la bonne place. Ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui vont prendre la relève, a fait valoir le maire Pascal Bonin. Le total des subventions inscrites au budget 2018 s'élève à 9 millions, contrairement à 8,2 au budget initial de 2017, selon un document fourni par le service des finances de la ville. Et voilà qui termine cette première heure de l'émission. Restez avec nous alors qu'on abordera les nouvelles internationales et le volet culturel.
bursting bubbles and hearts on strings. You've got a habit of breaking things, looking for trouble, list of flames. Ooh, oh. You've got a habit of using people. You get what you want, no matter what the cost. You've got a habit of using people. You seem in control, but inside you're
s'appelle Gabriel Chonk et sa chanson était Habit.
Dans l'actualité internationale de ce jour, ce qui a retenu notre attention, c'est d'abord cet appel de la France qui demande au Canada de renoncer à exploiter ses énergies fossiles, un texte d'Alexandre Schill publié dans Le Devoir. Le gouvernement français d'Emmanuel Macron estime que le Canada devra faire preuve de courage et renoncer à exploiter ses énergies fossiles au nom de l'engagement international à lutter contre les changements climatiques. C'est ce qu'a déclaré l'Élysée au Devoir en marge du One Planet Summit de Paris. La situation du Canada est une illustration du courage qu'il faut avoir aujourd'hui pour renoncer à certaines richesses qui se retrouvent sous nos pieds, a aussi soutenu le président de la République française. C'est tellement tentant d'utiliser ces ressources, surtout que vous avez de tout au Canada. Vous avez du gaz naturel, vous avez du pétrole, vous avez les sables bitumineux. Ce sont des milliards de dollars qui dorment, a ajouté l'Élysée. Uniquement pour le pétrole, l'Association canadienne des producteurs pétroliers prévoit que la production quotidienne passera de 3,8 millions de barils aujourd'hui à 5,1 millions en 2016. Cela équivaut à plus de 1,8 milliard de barils par année. La plus grande part de cette croissance doit provenir des sables bitumineux, dont la production quotidienne doit passer de 2,4 millions de barils l'an dernier à 3,7 en 2030. Il s'agit d'une hausse d'un peu plus de 50%. En même temps, a ajouté la présidence française, vous savez que si vous continuez à exploiter ces ressources, vous allez augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Vous avez donc toutes les ressources auxquelles il faut renoncer. Ça, c'est le courage des dirigeants qui doit être de dire quelles sont les stratégies à prendre pour décarboner notre économie. L'Élysée a d'ailleurs reconnu que le Canada est dans une situation qui est très difficile. Il y a une conscience climatique qui est très élevée au Canada, a-t-on toutefois souligné au lendemain du One Planet Summit de Paris. Les gens voient les effets du réchauffement climatique dans le Grand Nord, dans les océans. La présidence de la République a fait référence à la fonte du pergélisol de l'Arctique, une situation qui risque de libérer des quantités importantes de méthane au cours des prochaines décennies. Or, ce gaz à effet de serre, qui n'a jamais été pris en compte dans les prévisions climatiques sur lesquelles s'appuient les engagements de l'accord de Paris, peut être au moins 30 fois plus puissant que le CO2 selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Interpellé sur la cohérence d'une exploitation pétrolière accrue dans un contexte de lutte contre les changements climatiques, le cabinet de la ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, a réitéré les engagements pris par le gouvernement Trudeau. « Nous sommes engagés à éliminer les subventions aux combustibles fossiles pour 2025. Cela fait partie d'un engagement du G20 », a souligné sa porte-parole Marie-Pascale Desrosiers dans une réponse écrite. Dans un rapport publié en mai dernier, le vérificateur général avait toutefois souligné que le gouvernement fédéral n'avait toujours pas de plan pour parvenir à éliminer ses soutiens évalués à 1,6 milliard de dollars par année par les groupes environnementalistes. « Nous sommes engagés et déterminés à atteindre nos cibles », a ajouté le cabinet de Mme McKenna. « C'est pourquoi nous avons mis en place des réglementations strictes sur le méthane ainsi que sur les émissions du secteur pétrolier et gazier. » De plus, le gouvernement de l'Alberta a mis un plafond d'émissions fermé sur les sables bitumineux. En Chine, où tout se fait à une autre échelle, on apprend qu'à Pékin, un quartier de migrants expulsés devient une ville fantôme. Un texte de Johanna Chiu, Agence France-Presse. Il y avait du linge aux fenêtres, les enfants jouaient dans la rue et les femmes cuisinaient sur le pas de leur porte. Quelques mois plus tard, toute vie a disparu dans ce quartier de Pékin jadis peuplé de migrants, à l'heure où la municipalité mène une opération controversée d'expulsion. La capitale chinoise entend limiter sa population à 23 millions d'habitants d'ici 2020, contre environ 21 millions actuellement. Pour y arriver, elle cherche à faire partir les provinciaux modestes et peu qualifiés. Le quartier de Wuchanggun, dans le nord-ouest de Pékin, fait partie de la myriade de zones d'habitation transformées ces derniers mois en villages fantômes. La ville fait fermer ou démolir les constructions qu'elle considère illégales ou dangereuses. Les expulsions ont redoublé depuis le mois dernier après un incendie qui a fait 19 morts en banlieue. Les autorités ont alors opportunément décrété la démolition des bâtiments à risque. Mais beaucoup d'habitants n'ont droit qu'à quelques jours pour faire leurs valises, voire quelques heures. Des méthodes expéditives qui suscitent un tollé dans le glacial hiver chinois. Le pays compte des dizaines de millions de travailleurs venus des campagnes. Ils occupent souvent dans les villes des emplois peu qualifiés, des ménageurs, petits commerçants, livreurs, ouvriers du bâtiment. Moteurs de l'essor économique du pays, ils sont souvent traités en citoyens de seconde zone et je vous rappelle qu'ils ne sont pas indemnisés lorsqu'on les chasse. Rebuffade en Alabama, un éditorial de Guy Taillefer. Le Trumpisme en déroute et si c'était vrai. La défaite de Roy Moore en Alabama vient en tout cas mettre en exergue la vulnérabilité de Donald Trump. Si les républicains peuvent être battus en Alabama, état rouge entre tous, alors c'est dire qu'ils peuvent l'être n'importe où, n'est-ce pas? Du moins, les démocrates auxquels la victoire de Doug Jones mardi donne des ailes veulent-ils le croire? Encore que, considérant l'ultraconservatisme, pour ne pas dire la vilenie des positions défendues par M. Moore, il y a lieu de se demander pourquoi sa défaite n'a pas été plus décisive. L'homme a deux fois été évincé de la Cour suprême de l'Alabama pour avoir refusé d'appliquer la loi au nom de ses convictions de chrétien fondamentaliste. Alors, si ça vous dit de vous plonger dans un univers de Noël classique, mais archi-classique, eh bien, sachez qu'il faut aller à l'Oratoire Saint-Joseph. Il y aura un grand concert gratuit parfait pour les fans de Noël, un texte de Marie-Chantal Pelletier. Véritable lieu de culture, l'Oratoire Saint-Joseph sera le théâtre d'un grand spectacle de Noël gratuit le dimanche 17 décembre prochain. C'est sur le coup de 15h30 que les voix des petits chanteurs du Mont-Royal, accompagnés à l'orgue par Vincent Boucher, retentiront dans la basilique. Chants classiques et autres hymnes sont au programme de cet après-midi qui promet d'être des plus magiques. Cadre enchanteur s'il en est un, la basilique de l'Oratoire Saint-Joseph proposera une acoustique unique pour les plus beaux airs classiques des fêtes. Une projection sur écran géant contribuera également à assurer que tous les spectateurs bénéficient d'une expérience mémorable. Ce concert traditionnel s'inscrit au cœur d'une série d'activités proposées pendant la période des fêtes à l'Oratoire. À certains égards, une centaine de crèches et de une centaine de crèches et de représentations de la nativité du monde entier seront exposées au musée de l'Oratoire, de quoi faire patienter les petits avant le concert et insuffler un peu de magie des fêtes chez les plus grands. Puisqu'il est question de jeunesse, une bonne nouvelle. L'OSM double son programme avec les enfants, ce que nous rapporte Le Devoir. Grâce à un don de 665 000 $ de la Fondation Azrieli, l'OSM de Kent-Nagano sera en mesure de doubler son programme. La musique aux enfants, développée en partenariat avec l'Université de Montréal et la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. La musique aux enfants est un projet de pré-maternelle et maternelle musicale imaginé par Kent Nagano dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Le don de la Fondation Azrieli permettra à une deuxième cohorte d'enfants d'intégrer une formation musicale à leur parcours scolaire. En terminant, Sylvain Cormier a rencontré Claude Pelgag avant et après les prix, c'est d'ailleurs le titre de son texte. Aveu, les extrovertis m'intimident, m'indisposent même, indéfinissable malaise. La première fois que j'ai vu Claude Pelgag sur scène, plus elle en faisait, moins je la suivais. J'étais pas mal difficile à suivre, je pense, dit Chloé Pelletier-Gagnon en riant. J'étais tellement timide dans le quotidien. J'avais enfin trouvé un lieu où je pouvais offrir la version la plus libre de moi-même. Alors je voulais tout dire, tout faire en même temps. Étonner, émouvoir, amuser, être excentrique, déconcertante, loufoque, tout. En concentré, ça faisait beaucoup d'un coup. C'était en 2011. Elle avait obtenu 5 prix au Festival international de la chanson de Granby. D'accolade en Laurier, ça n'a pas cessé depuis, au Québec et dans le reste de la francophonie, jusqu'au 4 Félix sur 11 nominations de son triomphe à la disque, dont celui de l'auteur ou compositeur de l'année, attribué à une auteure-compositrice pour la première fois en 24 ans. Tant mieux pour moi, mais je pense à toutes les autres qui ont été en nomination les années précédentes et qui l'auraient mérité, ce Félix. Étourdi d'honneur, Claude Pelgag? C'est certain que c'est un bloc intense. Oui, ça fait vraiment plaisir. Mais je suis surtout contente que ça amène plus de gens dans les salles. Un Félix n'est pas un but, c'est un moyen. Que tu reçoives ou non des prix, ce sont des décisions qui ne t'appartiennent pas. Après, c'est à toi d'être à la hauteur de tes propres attentes. Nouvelle régionale, et puisqu'on respecte la tradition à cette émission, on va directement dans les pages du Soleil à Québec pour lire, apprendre en fait, d'une étrange sortie de Marguerite Blais qui brise, semble-t-il, la belle unanimité libérale. Que valent les motions de l'Assemblée nationale, demande Marguerite Blais. C'est un texte de Jean-Marc Salvet. Que valent les résolutions adoptées par l'Assemblée nationale, demande l'ex-ministre libérale Marguerite Blais. Elle déplore que celles réclamant d'exclure les pensions alimentaires du calcul des prestations d'aide sociale d'un parent d'une famille monoparentale n'aient trouvé aucun écho dans le plan de lutte contre la pauvreté du gouvernement de Philippe Couillard. Quand des députés votent à l'unanimité à l'Assemblée nationale une motion qui n'implique pas le gouvernement fédéral, quand il s'agit d'un dossier entièrement dans la Cour du Québec, quand on peut agir et qu'on ne le fait pas, il faut se demander pourquoi. Pourquoi on vote des motions? Parce que ça fait partie d'un jeu parlementaire ou parce qu'on y croit? Interroge Marguerite Blais en entrevue avec Le Soleil jeudi. Sur le fond, sur le fait qu'aucune suite n'ait été donnée à la résolution votée à l'unanimité en novembre 2012 sur l'exclusion des pensions alimentaires du calcul des prestations d'aide sociale des mères de famille monoparentales, c'est encore une injustice et je pense que ça doit être corrigé, croit l'ex-ministre libéral. Marguerite Blais souligne que les pensions alimentaires aident les enfants à subsister et note que tout augmente pour tous dans la société, y compris et surtout pour les familles monoparentales et l'aide sociale. Or, pour elle, les pensions alimentaires pour enfants sont considérées comme un revenu de travail. Elles réduisent donc leurs prestations de dernier recours. Il existe à l'heure actuelle une exemption partielle, c'est-à-dire que 100 $ d'une pension alimentaire destinée à un enfant ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant mensuel d'aide sociale. Les pensions alimentaires sont également calculées comme un revenu pour des personnes bénéficiant du programme de prêts et bourses d'études, d'aide au logement et d'aide juridique, ce qui a pour effet de réduire leur accessibilité. Pour tous les autres citoyens, une pension alimentaire pour enfants est considérée comme une mesure de soutien et n'est pas imposée. Grande journée pour les francophones ontariens, puisqu'on apprenait qu'en termes de bilinguisme officiel, le projet de loi 177 a été adopté à Queen's Park, à Toronto, ce que nous rapporte Daniel Leblanc dans les pages du droit. Le projet de loi Omnibus 177, qui comprend entre autres l'officialisation du statut bilingue d'Ottawa, ce n'était pas encore fait, et la mise sur pied de l'Université de l'Ontario français, a été adopté à Queen's Park sur le coup de midi vendredi. Les progressistes conservateurs et les néo-démocrates ont voté contre ce projet mammouth qui comprend plusieurs initiatives budgétaires. Celui-ci a finalement passé le test à l'issue d'un vote 48-37 en ce dernier jour de session parlementaire à Toronto. La loi comprend également la gestion par et pour les francophones du Centre Jules Léger à Ottawa. Cette institution, gérée par le ministère de l'Éducation offrant des programmes et services en français à des élèves de 21 ans et moins aveugles, sourds, malentendants ou ayant de sévères troubles d'apprentissage, sera désormais sous la gouverne des 12 conseils scolaires francophones de la province. Honoré de célébrer le temps d'une photo la belle collaboration autour du projet Ottawa Ville bilingue, bravo à Kathleen Wynne, a gazouillé la ministre des Affaires francophones Marie-France Lalonde, publiant une photo où on l'aperçoit avec la première ministre Kathleen Wynne, des représentants d'organismes francophones et la députée d'Ottawa-Vanier, Nathalie Desrosiers, qui avait présenté en mai dernier un projet de loi privé sur la question. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'AFO, n'a pas tardé à réagir, soulignant que l'année 2017 s'achevait sur une bonne note pour la francophonie ontarienne. Les francophones prennent de plus en plus leur place dans la province. Aujourd'hui, les franco-ontariens peuvent être fiers de leur ténacité, de leur mobilisation dans ces trois projets. L'AFO remercie le gouvernement de l'Ontario pour son engagement envers la francophonie ontarienne en faisant aboutir ces trois projets, de dire le président Carole Jolin. À Sherbrooke, discrimination, oui, non, peut-être, c'est ce qu'on va voir à l'université, semble-t-il. Des étudiantes incitées à ne pas tomber enceinte, un texte d'Isabelle Pion publié dans les pages de la Tribune. Ne pas être enceinte durant ses études supérieures, c'est le genre de demande auquel font face des étudiantes, même en 2017. C'est ce que soutient la professeure Ève Langelier de l'Université de Sherbrooke dans une lettre adressée à ses étudiantes et étudiants et qui a été diffusée sur les médias sociaux. « J'ai récemment appris qu'encore aujourd'hui, on demande à certaines et à certains d'entre vous de vous priver du bonheur de la parentalité. » Plus spécifiquement, dans une entente écrite, on demande à des étudiantes de ne pas tomber enceinte durant leurs études de deuxième et troisième cycle et à des étudiantes de ne pas profiter de leur congé de paternité. Or, une telle façon de faire est discriminatoire et illégale en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne, note celle qui est titulaire de la chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec. Il est vrai que la recherche universitaire n'est pas toujours facile et que des professeurs et professeurs peuvent vivre avec une grande pression, notamment pour la recherche de financement et la publication de résultats. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas un argument valable pour agir de façon discriminatoire, écrit Mme Langelier dans sa lettre. Elle rappelle que mener des études au cycle supérieur peut être long. Ensuite, nouvellement en poste au sein d'un corps professoral vers l'âge de 30 ans, on cherche à faire ses preuves pour avoir la permanence environ 5 ans plus tard. Ça nous mène à 35 ans. Et à ce moment, on pourra encore trouver des excuses pour retarder la parentalité. Mme Langelier n'était pas disponible pour une entrevue jeudi. Dans une entrevue accordée à la presse en 2015, Mme Langelier racontait justement qu'elle s'était fait dire par un patron que ça ne serait pas un bon moment pour être enceinte. Finalement, les choses se sont bien passées pour elle. Je réalise que j'ai été privilégiée, encore plus quand on me raconte que des étudiantes craignent de perdre leur projet si elles tombent enceintes et que des professeurs craignent la venue d'un enfant nuise à leur demande de permanence. L'Université de Sherbrooke n'a pas voulu accorder d'entrevue sur le sujet, mais le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures de l'Université de Sherbrooke, Jean-Pierre Perrault, a indiqué par courriel que l'Université n'encourage aucunement une telle pratique, qui sont contraires à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Et j'ajouterai que la Meute n'a pas annoncé de manifestation pour le moment à Sherbrooke. En Mauricie, grande nouvelle, une première superclinique qui ouvre ses portes, ce que rapporte Paul Vermeau-Desroches dans les pages du Nouvelliste. C'est du côté de Trois-Rivières qu'ouvrira la toute première superclinique en Mauricie. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, est venu en faire l'annonce jeudi, confirmant du même coup que c'est du côté de la clinique du boulevard du Carmel que s'implantera cette nouvelle ressource visant à améliorer l'accessibilité aux services de première ligne. C'est en fait la clinique du groupe de médecine familiale du CAP qui opérera la superclinique, mais du côté de Trois-Rivières, dans des locaux aménagés du côté de la clinique du Carmel, qui fait actuellement l'objet de travaux pour un agrandissement de plus de 5000 pieds carrés. Les services y seront dispensés à compter du 1er mars et la superclinique fournira aux patients une accessibilité à raison de 12 heures par jour, 7 jours par semaine. En termes clairs, indique le ministre Barrette, Il s'agit ni plus ni moins que d'une mini-urgence où l'on dispensera les soins aux patients présentant des problèmes de santé généralement classés à l'urgence de priorité 4 ou 5, mais sans avoir à passer par la salle d'urgence. Si une personne n'a pas de médecin de famille ou n'est pas en mesure de consulter le sien rapidement, la superclinique devient alors le filet de sécurité qui permettra de dispenser des soins plus rapidement aux patients présentant des urgences mineures. De cette façon, la superclinique sera en mesure de dispenser un minimum de 20 000 consultations par année aux patients qui ne sont pas inscrits auprès d'un médecin de ce GMF. La clinique permettra aussi d'offrir des services de prélèvement et d'imagerie médicale de proximité. Et voilà qui termine déjà cette édition du 15 décembre 2017 du Quotidien des Quotidiens. Je vous donne rendez-vous lundi alors que j'aurai encore le plaisir de remplacer pour une dernière fois cette année Hélène Denis. Je vous invite à rester à l'écoute puisqu'à l'instant même, Kevin Breton viendra vous parler de sport. Merci, merci aussi à Mathieu Tessier.